Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies avec en titre « Réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine ». En Italie, Ban Ki-moon appelle à promouvoir le développement économique local. Réaction suite à une attaque contre des humanitaires en RCA, deux cas d'Ebola signalés en Guinée, les réfugiés face au froid et à la pluie dans les Balkans. Nous marquerons aussi la Journée mondiale de l'alimentation. Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation au Moyen-Orient. Les 15 ont entendu l'exposé du sous-secrétaire général aux affaires politiques, Tayeb Brooks Zerihoun, qui a déploré les nombreux incidents survenus ces dernières semaines et qui se sont soldés par la mort de 7 Israéliens et de 32 Palestiniens, alors que 124 Israéliens et 1118 Palestiniens ont été blessés. Le sous-secrétaire général a notamment fustigé le rôle des médias sociaux et la rhétorique irresponsable des deux parties qui ont contribué, selon lui, à l'escalade de la violence.
Ce qui est clair est que la crise actuelle ne peut être résolue par les seules mesures de sécurité. La persistance de l'occupation et de la diminution des perspectives de réalisation des aspirations palestiniennes à un État ont transformé la colère des Palestiniens qui couvaient depuis longtemps en une rage pure et simple. Cette dure réalité a été aggravée par les circonstances économiques de plus en plus désastreuses, y compris les perspectives sombres pour l'emploi des jeunes. La poursuite et l'expansion des activités de colonisation diminuent davantage l'espoir et la possibilité de création d'un État palestinien viable. Cette perte de perspective politique est le facteur le plus dommageable qui contribue à la colère et à la frustration qui mène à la violence que nous voyons aujourd'hui.
Le secrétaire général poursuit sa visite en Italie. À Turin, Ban Ki-moon est intervenu vendredi au 3e Forum mondial sur le développement de l'économie locale. L'occasion pour lui d'encourager les dirigeants locaux à contribuer à la rédaction des examens nationaux volontaires qui doivent être soumis dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement 2030. Il a aussi fait sien l'adage « penser globalement, agir localement ». On l'écoute.
On entend souvent dire que le monde est en train de devenir de plus en plus mondialisé. Et c'est vrai. Cela étant, la très grande majorité de la population continue de vivre dans un rayon de 500 km. Donc, alors que nous nous centrons sur des accords mondiaux comme les ODD, nous devons nous rendre compte du fait que les environnements locaux sont essentiels pour notre succès. C'est pourquoi il est si important que ces objectifs mondiaux soient promus dans les villes, les régions et les territoires. Le développement économique local augmente le niveau de vie. Il promeut l'inclusion sociale et cela contribue à la stabilité, la paix et la prospérité.
Après Turin, le secrétaire général s'est rendu à Milan pour marquer la Journée mondiale de l'alimentation observée ce 16 octobre et placée cette année sous le thème « Protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale ». Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 795 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim et de la malnutrition. À l'Expo de Milan, plusieurs hauts responsables se sont joints à Ban Ki-moon pour marquer la journée. Christina Silvero.
À l'Expo de Milan, Ban Ki-moon, José Graziano da Silva et Arthur N. Cousin ont tous appelé à lutter contre la faim. Le directeur général de la FAO a rendu hommage aux agriculteurs, pêcheurs et travailleurs de l'agroalimentaire qui ont contribué à augmenter la subsistance malgré le triplement de la population mondiale depuis 1945. José Graziano da Silva a cependant jugé nécessaire d'accroître le pouvoir d'achat des plus démunis et de leur fournir une protection sociale pour qu'ils soient autonomes et mène une vie digne et productive. Ban Ki-moon a pour sa part déclaré que plus qu'un manque de nourriture, la faim est une terrible injustice, dénonçant l'ampleur des pertes et déchets alimentaires estimés à un tiers de la nourriture produite dans le monde. Le secrétaire général a appelé à construire un mouvement mondial pour mettre fin à la faim. Imaginez qu'en 2030, aucun enfant, femme ou homme n'aille au lit affamé, a déclaré à son tour la directrice exécutive du PAM, Arthur N. Cousin, qui a exhorté tout un chacun à s'impliquer pour atteindre un monde sans faim d'ici 2030.
Mercredi soir à 22h, heure de Bangui, la capitale centrafricaine, des éléments armés se sont introduits dans la base de l'ONG Médecins sans frontières. De sources onusiennes, le personnel de MSF a été attaqué et 4 personnes ont été enlevées puis relâchées 30 minutes plus tard. De plus, un employé international a été gravement blessé, mais ses jours ne sont plus en danger. Une attaque vivement condamnée par le coordonnateur humanitaire en RCA, Aurélien Agbenonci. Les détails avec Tsige Chiferao.
Le coordinateur humanitaire Aurélien Agbenonci ainsi que toute la communauté humanitaire en République centrafricaine condamnent vivement l'attaque à l'encontre de l'équipe de Médecins sans frontières survenue dans la nuit du 14 au 15 octobre à Bangassou dans la préfecture de Mbomou. Aurélien Agbenonci a d'ailleurs exhorté les groupes armés à respecter la vie et la liberté d'action des travailleurs humanitaires présents dans le pays. Il a également rappelé que ces attaques ont été perpétrées contre des personnes qui mettent leur propre vie en danger pour en sauver d'autres. Le coordinateur humanitaire a profité d'une rencontre avec le bureau du Conseil national de transition jeudi après-midi pour réitérer sa condamnation et suggérer à la représentation nationale de lancer un appel pour que cessent les violences vis-à-vis des acteurs humanitaires.
Après deux semaines sans nouveau cas d'Ebola, deux nouveaux malades viennent d'être enregistrés en Guinée. Selon l'OMS, il s'agit d'une femme dont le cas a été signalé le 13 octobre à Ratoma, dans la banlieue de Conakry. L'autre a été détecté le 14 octobre lors d'analyse post-mortem sur un homme dans la région de Forécaria. Ces deux cas sont les premiers à être signalés en Guinée depuis le 27 septembre. Les explications d'Alpha Diallo.
Ces deux nouveaux cas d'Ebola en Guinée sonnent comme une mise en garde sur le front du combat contre cette maladie qui a ravagé ces derniers mois l'Afrique de l'Ouest. Presque deux semaines après le dernier cas confirmé dans ce pays, l'Organisation mondiale de la santé annonce que deux personnes ont contracté le virus. Pourtant, les organismes humanitaires s'étaient montrés optimistes lorsque, durant la semaine se terminant le 4 octobre dernier, aucun nouveau cas n'a été signalé en Guinée. Et c'était une première depuis mars 2014. Mais l'OMS avait prévenu que la bataille était loin d'être gagnée, d'autant plus que 150 personnes ayant été en contact avec des cas d'Ebola restaient encore sous surveillance. Selon le porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, l'un des cas concerne la ville de Forécaria et est lié à un ancien malade infecté par le virus. L'autre cas positif est apparu à Conakry, la capitale guinéenne. L'urgence est désormais d'intensifier la surveillance, surtout avec tous les mouvements de foule notés lors de la présidentielle en Guinée. L'OMS redoute que ces manifestations publiques et ce dernier scrutin ne compliquent la gestion de la réponse à Ebola. Sur près de 28 500 cas connus, plus de 11 200 personnes sont mortes de la maladie, principalement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Des milliers de réfugiés, principalement des Syriens, des Irakiens et des Afghans, continuent de franchir les frontières grecques pour rejoindre d'autres pays d'Europe. L'UNICEF signale que depuis septembre, entre 4 000 et 6 000 personnes sont entrées en Grèce chaque jour, avec un pic de 9 000 le 9 octobre. La pluie et le froid représentent à présent un des principaux défis pour les migrants et réfugiés, notamment à leur arrivée dans les Balkans. À l'approche de l'hiver, le Fonds s'inquiète aussi du manque d'abris adéquats. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF, est au micro d'Alpha Diallo.
Moi, je peux surtout vous répondre pour les familles et les enfants réfugiés. Il n'y a pas de répit que nous constatons, ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui énormément des milliers de personnes chaque jour qui traversent la frontière avec la Grèce. Le 9 octobre dernier, c'était même 10 000 personnes par jour. Donc non, nous n'avons pas noté de baisse de répit dans cette arrivée, notamment de familles en mouvement.
Et vous vous êtes un peu inquiété par rapport à la situation des enfants non accompagnés. Vous avez parlé d'abus sur des centres en Allemagne. De quoi s'agit-il exactement?
D'une manière générale, nous sommes inquiets lorsqu'il y a des enfants en mouvement, et nous avons des missions qui se sont rendues en Allemagne et en Hongrie, et on nous a rapporté des cas de violences liées au genre dans certains centres. C'est toujours en cours de vérification et en cours de finalisation. En tout cas, ça révèle le fait que les enfants en mouvement sont particulièrement vulnérables. C'est la raison non seulement de notre soutien opérationnel, notamment aux frontières, mais également de notre plaidoyer incessant auprès des autorités européennes de faire passer avant tout l'intérêt de l'enfant avant tout. Et cela passe notamment par des mesures de protection.
Est-ce que vous avez reçu des rapports quelconques par rapport à la vulnérabilité de ces enfants non accompagnés au niveau de ces frontières européennes?
Ils sont épuisés, certains ont clairement un trauma, qui est un trauma psychologique. Ce sont souvent des blessures profondes, invisibles. Nous le savons parce que nous avons 7 centres d'accueil des enfants à des points stratégiques, et lorsque ces enfants passent quelques heures, nous notons que certains d'entre eux ont vraiment besoin d'un suivi, notamment psychosocial, psycho-émotionnel. C'est très difficile parce qu'ils sont extrêmement mobiles et nous essayons de suivre le rythme. C'est une chose que d'apporter apporter un soutien à des enfants en difficulté à un endroit de façon stable, mais lorsqu'il y a un mouvement permanent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous restons très très vigilants, oui, nous voyons que les enfants sont extrêmement vulnérables, qu'ils souffrent et qu'ils peuvent être potentiellement soumis à des abus. On nous en a rapporté certains. On en saura plus dans les quelques jours, notamment avec des chiffres, au fur et à mesure que les chiffres, qui sont pour l'instant assez fragmentés, deviennent un petit peu plus globaux et soient surtout mieux vérifiés et revérifiés.
Est-ce que les besoins les plus urgents changent avec l'arrivée de l'hiver ?
Oui, l'arrivée de l'hiver va rendre la situation de plus en plus difficile. Il faudra notamment s'assurer qu'il ne tombe pas en hypothermie. L'hiver va accentuer le stress, les traumatismes. Il y a déjà des problèmes de nutrition du fait que les enfants qui marchent pendant ou qui voyagent pendant des semaines et des mois mangent de la nourriture essentiellement sèche. Mais il y a aussi des problèmes de santé et des problèmes de protection de l'enfant. Nous soutenons déjà la distribution de matériel de vêtements et de matériel pour protéger les enfants contre le froid. Nous notons déjà que dans certains pays, certains enfants, il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de facilités qui permettent aux enfants d'avoir un vrai répit et de pouvoir se reposer. Nous nous préparons, nous, du point de vue opérationnel, mais nous rappelons aussi à tous les États qui ont signé la Convention relative aux droits de l'enfant que l'une des premières protections est de protéger les enfants contre le froid et tout ce qui peut attenter à leur équilibre.
Retour sur la Journée mondiale de l'alimentation. Dans son dernier rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, la FAO souligne à quel point les programmes de protection sociale peuvent réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. D'où l'importance de veiller à la durabilité des systèmes d'assistance sociale et à leur bonne gestion. Pour en savoir plus, Muriel Sarr s'est entretenue avec Abdelsalam Ould Ahmed, sous-directeur général et représentant du bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.
La région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient exhibe des tendances de protection sociale assez proches de celles que l'on peut voir dans les autres pays en voie de développement. Mais il y a une particularité propre à cette région qui se justifie par l'importance des systèmes d'assistance sociale et notamment de soutien à l'accès aux produits alimentaires ainsi que les subventions aux produits alimentaires, les subventions également à l'essence, au pétrole et à l'électricité dans certains cas. Ces systèmes d'assistance sociale, qui sont parfois très coûteux, ont constitué l'essentiel des systèmes de protection sociale dans le passé et ils ont représenté en moyenne quelque chose comme 5,6% du PIB national. Donc cela montre, si vous voulez, la prédominance des systèmes d'assistance sociale directe dans les systèmes de protection sociaux qui sont en vigueur dans l'Afrique du Nord. Et la raison de cette prédominance des systèmes de subvention, en particulier aux produits alimentaires, est liée au fait que la région ne produit que 50% à peu près de ce qu'elle consomme. Et donc, elle est assez dépendante des importations internationales. Et ce système d'assistance sociale permet justement de se protéger contre d'éventuelles fluctuations des prix qui, sans nul doute, auraient eu un impact majeur sur la vie des citoyens. Et c'est donc cette spécificité-là qui est un trait caractéristique des systèmes de protection sociale. Mais en même temps, on a pu voir au cours des 3 ou 4 dernières années, de plus en plus se profiler de réformes de ce système parce que perçu comme non totalement performant.
À votre avis, accorde-t-on assez d'importance à la protection sociale ?
La protection sociale est sans doute une priorité pour les pays de la région. La question, c'est que peut-être certains aspects de cette protection sociale, des systèmes notamment d'assistance sociale qui sont en vigueur, pendant longtemps n'ont pas reçu l'attention qu'il faut. Et c'est ce renversement de tendance que l'on voit aujourd'hui dans les vœux de réforme dans plusieurs pays, au Maroc, au Soudan, en Égypte et dans d'autres pays, une plus grande attention à la dimension de l'efficacité des systèmes de protection sociale. Et ceci va engendrer et a déjà engendré des réformes des systèmes qui sont en vigueur.
Quelles sont les questions à prendre en compte en matière de protection sociale dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et quel est le lien avec l'agriculture ?
Les questions fondamentales qui se posent aujourd'hui, c'est d'abord la question de l'efficacité des systèmes de protection sociale qui sont en vigueur, les questions de leur universalité, est-ce que ces systèmes touchent les plus pauvres ? Est-ce qu'ils touchent les populations qui sont visées dans leur essence par les systèmes qui sont mis en place ? Est-ce que ces systèmes les touchent de façon efficace ? En d'autres termes, est-ce qu'il s'agit là de la meilleure manière de réduire la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire ou l'accès des citoyens aux produits alimentaires. Est-ce que ces systèmes sont soutenables étant donné leur coût ? Est-ce que les systèmes de ciblage. Ce sont des systèmes qui sont efficaces. Et il y a évidemment un lien immédiat avec la sécurité alimentaire et plus généralement le bien-être du monde rural. C'est parce que la plus grande proportion des pauvres vit dans le secteur rural et ce sont les agriculteurs et les travailleurs des systèmes informels sont généralement laissés pour compte par rapport au système de protection sociale. Ils ne bénéficient en général pas de système d'assurance et l'infrastructure n'étant pas toujours très développée vers les zones rurales, ce sont les populations rurales qui pâtissent le plus de la non-couverture en termes de subventions alimentaires.
Et c'est avec Abdelsalem Ould Ahmed que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur Internet. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.